Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Vous êtes sur Radio Campus Tour 99.5 ou radiocampustour.com si vous nous écoutez en podcast et vous écoutez Ménage-toi Simone.
Ah, les bonnes femmes.
Je préfère voir tes fesses que ta gueule. Elles sont plus agréables à regarder.
Justement, est-ce que je pourrais avoir une autre de vos petites putes asiatiques? La mienne est morte.
Ménage-toi Simone.
Deuxième épisode de Ménage-toi Simone, une émission réalisée par le réseau des jeunes ambassadrices de l'égalité femmes-hommes et produite par Radio Campus Tour. Le réseau des jeunes ambassadrices de l'égalité femmes-hommes, c'est un réseau non associatif de Tours, un collectif mixte et composé de jeunes et qui traite de l'égalité femmes-hommes. Et également, cette émission, Ménage toi Simone, va traiter de l'égalité femmes-hommes à travers différents sujets et différentes thématiques qu'on a choisies spécialement pour l'occasion. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai 4 autres membres du réseau avec moi. On a d'abord Romane. Bonjour Romane.
Bonjour.
On a aussi Ophélie.
Bonjour.
Et Mélanie.
Bonjour.
Également Anaïs.
Bonjour.
Quant à moi, je suis Merlin et à côté de moi, à la régie, on a Zoé.
Salut.
Je suis sûr qu'on t'a entendu. Ok, on commence cette deuxième émission par quelques petites actualités concernant l'égalité femmes-hommes. Qui souhaite commencer?
Moi, je vais commencer. Du coup, je pense qu'un peu comme tout le monde, j'ai vu passer l'info sur la réaffirmation de la pénalisation des clients pour la prostitution. Du coup, en voyant ça, je me suis dit, ok, mais pourquoi on en reparle maintenant? Parce que la loi est quand même passée en 2016. Petit rappel, la loi condamnait les clients à 1500 euros d'amende, voire 3700 euros s'il y avait récidive. Et en gros, 9 associations, ONG, organismes, travailleurs du sexe, dont Médecins du Monde et le Syndicat des Travailleurs du Sexe, ont proposé une révision de cette loi. Et donc les principaux arguments qui étaient exposés sont tenus par Médecins du Monde et c'est ceci.
Pour pouvoir continuer à travailler, elles sont obligées d'être dans des endroits beaucoup plus isolés, donc qui présentent plus de risques d'exposition face aux agresseurs. Les clients qui restent, malheureusement, se sentent dans un rapport de force. La situation des travailleuses du sexe s'est énormément précarisée depuis l'adoption de la pénalisation des clients.
Donc ça a soulevé beaucoup de débats, donc avec un côté d'avis qui était plutôt vers ce côté-là, et des associations plutôt abolitionnistes par rapport à la prostitution, telles que le Mouvement du Nid ou Oser le Féminisme, tenaient des arguments plutôt pas forcément inverses, parce qu'ils étaient aussi dans la protection des prostituées, mais plutôt en considérant que même si la prostitution peut avoir lieu dans un espace privé entre adultes consentants, la grande majorité se faisait dans le cadre violent du proxénétisme et du trafic d'êtres humains. Et donc c'est le parti qui a été pris par le Conseil constitutionnel en jugeant que cette loi adoptée en 2016 était conforme à la Constitution et en valorisant plutôt le statut de victime pour les prostituées plutôt qu'en tant que délinquante, ce qui a été jugé comme infantilisant par Médecins du Monde.
Très bien, merci Romane pour cette première actualité. Tu veux enchaîner, Ophélie ?
Oui, alors moi du coup je voulais vous parler des toilettes et plus précisément de la ville de New York qui oblige désormais les bâtiments accueillants du public, donc tout ce qui va être cinéma, restaurant, tout ça, à intégrer des tables à langer dans les toilettes pour hommes. Et même si ça ne concerne actuellement que les nouveaux bâtiments qui vont être construits ou ceux qui sont en rénovation, on peut dire que c'est un pas de plus vers l'égalité. Ce n'est plus à la maman de s'occuper des couches des enfants, maintenant c'est vraiment les deux parents qui s'en occupent. Et en plus, comme le précise le maire de la ville de New York, ça permet de lutter contre les stéréotypes de genre. Donc je ne peux que saluer cette initiative.
Très bien. Merci beaucoup Ophélie. On écoute Anaïs.
Oui. Alors moi je voulais vous parler de Bilal Hassani, qui s'est qualifié fin janvier pour représenter la France à l'Eurovision. Suite à sa qualification, il y a eu un énorme déchaînement de haine sur Twitter qui a abouti à un dépôt de plainte de SOS homophobie et d'urgence homophobie. Bilal Hassani, il est ouvertement gay, il bouscule un peu les codes de la masculinité, il chante, il danse, il porte des perruques, il se maquille, etc. Donc il y a eu des réactions qui ont été vraiment extrêmement violentes. Il fait vraiment l'objet d'un harcèlement. On est allé fouiller des vieux tweets qu'il avait écrits en 2014, donc il avait 14 ans, sur Israël et Dieudonné, il y a carrément un élu, un sénateur qui a écrit à l'Eurovision pour que Bilal Hassani soit évincé de l'Eurovision. Enfin, moi vraiment, ça m'étonne vraiment parce que pour moi, l'Eurovision, c'était acquis que c'était un truc un peu kitsch dont tout le monde en avait rien à faire. Et là, tout de suite, on a un candidat gay qui change un petit peu et là, ça devient une affaire d'État. Donc, c'est vraiment un peu ridicule, quoi.
Merci Anaïs. Quant à moi, s'il fallait choisir une actualité, je vais aller parler de celle de lundi 4 février où s'est ouvert le procès en diffamation des journalistes qui ont révélé l'affaire Baupin. En fait, c'est vraiment un procès où sont accusés du coup des journalistes qui ont mené l'enquête et qui ont permis aux victimes d'aller devant la justice et de porter plainte contre Denis Baupin. Et en fait, c'est un procès où Denis Baupin est complètement absent, en fait, mais où toutes les victimes et tous les journalistes doivent aller devant le tribunal. Et les victimes, notamment, doivent reparler de leur témoignage, reparler de leur agression, donc quelque chose qui est malgré tout assez éprouvant. Et tout ça pour que la justice détermine si les journalistes n'ont pas été trop intrusifs dans la vie privée de Monsieur Baupin, etc. Et voilà, et ce qui est un peu choquant, c'est que Denis Baupin est complètement absent de ce jugement, n'est pas présent dans le tribunal lors de cette affaire. Et également, c'est un peu la première fois, c'est la première dans l'histoire, c'est la première affaire où ce sont des journalistes qui ont permis aux victimes de dénoncer ça, en fait, d'apporter ça devant une cour pénale, alors que la plupart du temps, c'est les victimes qui mènent ce combat elles-mêmes. Donc voilà, on peut considérer ces dépôts de plainte pour diffamation comme un petit peu une attaque à la liberté d'enquêter et la liberté à la liberté journalistique que peuvent avoir les journalistes pour dénoncer des abus, notamment dans les sphères politiques. Et voilà pour mon actu. On écoute Mélanie désormais.
Oui, moi je vais vous parler de la polémique qui a eu lieu au CES à Las Vegas. Le CES, c'est le Consumer Electronics Show. C'est un salon qui présente des nouvelles technologies en fait. Et cette année, en janvier 2019, le salon a récompensé un sextoy féminin appelé Osé, de la marque Laura Di Carlo. Seulement, les organisateurs ont décidé de lui retirer le prix, jugeant le produit obscène, ou plus exactement, affirmant que le sextoy féminin ferait partie des produits immoraux, obscènes, indécents, profanes, ou ne correspondant pas à l'image de l'événement. De son côté, Laura Haddock, la fondatrice de la marque du sextoy, a eu interdiction de présenter son propre sextoy sur son stand. Donc elle a carrément jugé la décision sexiste, et s'est dit que ça relançait aussi un débat dans le sexisme dans le milieu de la technologie. Précisons en plus que sur ce salon, les visiteurs avaient déjà pu regarder de la pornographie en réalité virtuelle, ou des robots faire des striptease sur des podiums, ou encore découvrir des poupées sexuelles. Et bien sûr, ces innovations n'avaient alors pas été bannies du CES. Voilà pour moi.
Merci Mélanie. Donc c'est sur cette dernière actualité qu'on va revenir après la première pause musicale pour faire une petite discussion, une petite conversation sur tout ce que ça dit de l'égalité entre les femmes et les hommes sous plusieurs aspects. Et donc c'est une discussion qu'on aura après la première pause musicale. Cette première pause musicale, elle est en relation, en lien avec le thème qu'on va aborder. La musique, c'est Diamant du groupe Bagarre. et c'était Bagarre avec leur titre Diamant. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 ou radiocampustour.com si vous nous écoutez en podcast. Donc place à la discussion, maintenant la discussion autour de cette actualité, donc sur ce salon de la technologie qui a d'abord récompensé, puis enlevé la récompense et banni une création qui était pour la sexualité féminine, puisque c'était un sextoy féminin. Et voilà, on a décidé de garder cette actu, puisque ça en disait long, ça en disait beaucoup sur l'état de l'égalité femmes-hommes actuellement. Donc on a plusieurs aspects qu'on va évoquer au cours de la discussion. Qui souhaite débuter, qui souhaite nous expliquer un petit peu ce que ça traduit, cet événement, cette prise de décision du jury du salon de la technologie?
Bah, pour moi, vraiment, ça montre vraiment qu'il y a des doubles standards. C'est-à-dire que, au niveau de la sexualité, quand c'est pour les femmes, ça va pas. Quand c'est pour les hommes, tout va bien. Donc, quand c'est un sextoy féminin, c'est un scandale. Et quand c'est une poupée gonflable ou des films porno en réalité virtuelle, ça pose de problèmes à personne. Mais on voit ça aussi dans plein d'autres choses. Alors là, par exemple, en ce moment, sur Instagram, les tétons féminins sont censurés et pas ceux des hommes. Concrètement, ça a posé problème plusieurs fois, par exemple, au Super Bowl. Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a eu le Super Bowl. Donc, en général, là, au milieu du match, il y a un concert. Là, c'était Maroon 5. Donc, le chanteur a fini torse nu au bout d'à peu près 45 secondes de chant. Ça a posé de problème à personne. Par contre, en 2004, il y a Janet Jackson qui a malencontreusement fini avec un sein nu. Et alors là, ça a été un scandale absolu. Ça s'est carrément appelé le Nipplegate.
Donc, elle a dû présenter ses excuses.
Voilà, elle a dû présenter des excuses. Alors, Nipplegate, c'est-à-dire, ça renvoie quand même au Watergate, qui était une affaire d'espionnage en politique. Donc, toute proportion gardée, voilà. Et du coup, elle a carrément dû annuler des concerts, elle a dû annuler sa participation au Grammy Awards. Enfin, vraiment, ça avait eu un impact sur sa carrière.
Alors que c'était au même événement, c'était la finale du Super Bowl, avec quelques années de différence.
C'est ça, complètement.
Côté slut-shaming là-dessus.
Exactement.
Exactement. Et justement, bah, pour rebondir sur
Ophélie,
ce que tu disais, Mélanie, le slut-shaming, en gros, c'est diminuer la valeur d'une personne, très souvent une femme, comme là dans l'exemple, en se basant sur sa sexualité réelle ou supposée. Et évidemment, les équivalents masculins n'existent pas. Si vous êtes intéressé par la notion, je vous conseille deux vidéos, une sur la chaîne YouTube de Mademoiselle et une sur la chaîne YouTube de Parlons Peu Mais Parlons, qui explique très bien le concept et qui donne vraiment pas mal d'exemples, comme par... la chose qu'on entend le plus souvent, une femme qui a eu plusieurs partenaires sexuels, c'est une salope. Et un homme, c'est un coureur de jupons. Donc là, on voit bien la différence. Et justement, ce que tu disais, Anaïs, les doubles standards.
Ouais. Je voudrais revenir sur le mot salope qu'on entend un peu à tout va et qui fait quand même pas mal débat dans le féminisme. Au final, qu'est-ce qu'une salope? Une salope, c'est une femme qui aime le sexe. Et donc, au final, dans ce salon-là sur les innovations, assumer cette innovation de sextoy féminin, ça voudrait dire qu'on accepte qu'une femme qui a une sexualité indépendante, une sexualité seule, donc sans homme, est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est dangereux? Et accepter ça, ça serait dire, en fait, oui, tu es légitime à avoir une sexualité, tu es légitime à recevoir du plaisir, tu es légitime à être une salope, puisque toi, tu aimes le sexe, alors qu'au final, les hommes, on se pose pas tellement la question, on parle de branlette à tout va, et comme si les hommes, on est encore dans ce standard de les hommes ont des pulsions incontrôlables, etc., qu'on déresponsabilise, ça leur accorde des super pouvoirs, et du coup, je trouve ça horrible, parce que ça sous-tend plein de choses, alors qu'au final, le plaisir féminin, le plaisir masculin, voilà, c'est quelque chose de personnel, et qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir ce que font les gens, vraiment.
Et donc si on devait définir le double standard, c'est bien ça, c'est qu'il y a un standard féminin, un standard masculin, donc encore quelque chose de très genré et très binaire, et donc ces deux standards, voilà, ils sont pas définis pareil, et donc il y a des choses qui sont autorisées aux hommes, qui sont pas autorisées aux femmes, notamment du point de vue de la sexualité. Mm. Si on devait définir le double standard, on dirait comme ça?
Oui, et puis une sexualité assumée, c'est valorisant pour un homme, alors que c'est dévalorisant pour une femme. Sauf que pour moi, ce qui est dangereux, c'est qu'en fait, quand après on a des affaires de violence sexuelle, du coup, c'est des arguments qui sont utilisés. C'est-à-dire que pour les hommes, ça va minimiser parce que
c'est pas leur faute.
Parce que voilà, c'est pas de leur faute. Les hommes sont un peu des animaux qui ne savent pas résister à leurs pulsions. Mais on s'en sert contre les femmes, c'est-à-dire que une femme qui va porter plainte pour viol, s'il y a un procès après, on va aller fouiller dans sa vie personnelle. Là, dernièrement, sur le procès du 36 Quai des Orfèvres, des policiers qui ont été accusés de viol par une touriste canadienne, ils sont allés fouiller là-dessus.
Quelle pratique sexuelle
voilà,
elle a,
quelle pratique
etc.
sexuelle elle a, etc.
C'est vrai que c'est important pour le consentement de savoir ce qu'elle faisait avant.
C'est ça. Donc, ça n'a, alors que ça n'a rien à voir, en fait, avec, avec l'affaire, mais on va quand même aller chercher de ce côté-là.
Et c'est un peu la même chose aussi dans la santé, dans le domaine de la santé et de la science, parce que autant il y a des recherches sur la sexualité masculine, mais c'est quasiment inexistant sur la sexualité féminine. Dans mon souvenir, je ne sais pas si c'est toujours actuel, mais il n'y avait que 3 pays qui faisaient quelques recherches, la France, l'Italie et les États-Unis, c'est-à-dire dans le reste du monde, il n'y a rien. J'ai quelques dates, si vous voulez, pour illustrer ça. C'est en 98, une équipe australienne dissèque réellement un clitoris, donc on a une description validée en 98. En 2018, on a les premières coupes en 3D du clitoris. Et il y a 10 ans, en 2009, on a la première échographie pardon, du clitoris durant un coït, où on voit vraiment comment ça fonctionne. 2019. En 98, donc, quand on a compris comment fonctionnait le clitoris, à quoi ça ressemblait, ça correspond en fait à l'arrivée sur le marché du Viagra. Donc, on voit bien la grosse différence qu'il y a entre les deux et les grosses lacunes qu'il y a en fait dans la médecine concernant la sexualité féminine, qui n'existe donc quasiment pas. Donc c'est très révélateur en fait.
Pour
c'est pas un bon sujet.
Ophélie. Pour rebondir sur ça, je suis tombée sur une interview de Jean-Claude Picard, qui est un sexologue clinicien, et qui disait que le clitoris n'a pas toujours été si obscur, et qu'en fait il était quand même assez recherché dans le 18e siècle, tout ça. Et en fait, c'est au fur et à mesure que les droits des femmes ont reculé que le clitoris est devenu de plus en plus obscur. Et justement, il faisait le parallèle entre ça. Il disait, c'est une coïncidence ou pas? Donc là, c'est vraiment la question qu'on se pose. Et même encore aujourd'hui, il se posait la question que dans les congrès de sexologie, le clitoris et le plaisir féminin étaient très peu abordés et qu'il avait déjà entendu une phrase « La sexualité du couple s'arrête en cas de problème érectile de l'homme ». Donc on base vraiment la sexualité du couple voilà, sur l'homme, enfin c'est lui
couple
qui porte.
Couple hétéro, bien sûr, les autres n'existent pas.
C'est ça, exactement.
Et Odile Buisson, qui est une gynécologue qui a beaucoup fait des recherches sur le clitoris, parle, elle, d'excision mentale en Occident. Dans les livrets scolaires, il n'existe pas, le clitoris n'existe pas, et la coupe, enfin, il n'est même pas correct, en fait.
Bah, globalement, le sexe féminin n'est pas connu, c'est-à-dire que tout le monde sait dessiner une bite, alors par contre, dessiner une vulve, là, tout de suite, c'est plus obscur, quoi.
Hein? Sachant que, rappelons quand même que le clitoris, c'est l'organe féminin qui n'a qu'une seule fonction, le plaisir, alors que tous les organes masculins voués au plaisir ont d'autres fonctions. Et donc, quand même, on pourrait faire une putain de célébration de ça, et ben non, n'en parlons pas,
tabou.
C'est sale. Pourquoi nous faisons ça? Et pour rebondir sur ce que disait Ophélie, le fait qu'avant le clitoris n'avait pas forcément la même considération, il y a des génies un jour qui ont découvert que l'orgasme féminin ne servait à rien pour la reproduction. Parce que un mec, il faut qu'il éjacule, sinon il n'y a pas de reproduction possible, mais une femme qui a un orgasme, en fait, ça sert à rien. Et donc, quand ils ont découvert ça, Le clitoris et l'orgasme féminin, le plaisir féminin n'avaient plus aucun intérêt. On s'en fiche que la fille prenne du plaisir, on s'en fiche qu'elle mouille ou qu'elle mouille pas, on s'en fout totalement. Et du coup, la femme est passée de « il faudrait la prendre en considération, prendre en compte son plaisir dans l'acte sexuel » à « ben non, réceptacle passif
yes. ».
Et au final, je trouve ça assez atroce parce que à un moment de l'histoire, on en avait quelque chose à faire et maintenant, tout le monde s'en fout.
Oui, c'était associé à la reproduction. C'est-à-dire que si elle avait un orgasme, eh ben, elle était enceinte, elle avait un enfant.
Au Moyen-Âge, il y avait des livres, justement, avec des dessins et tout, où on expliquait aux hommes comment faire jouir leur partenaire, parce que c'était très important pour la reproduction.
On pensait que c'était la jouissance des deux qui permettait la fécondation
tout
et qui permettait d'avoir un enfant. Et lorsqu'on a découvert que la jouissance féminine n'était plus obligatoire, plus nécessaire. Du coup, c'est comme ça que ça a sombré dans l'oubli et dans la...
On l'a mis de côté.
Conclusion, Moyen-Âge, c'était quand même vachement bien.
Pas si moyen. Ok, et donc forcément, ce double standard, cette considération différente entre ce qui concerne les hommes et ce qui concerne les femmes, a des retombées donc, sur l'industrie du sexe et ce qu'on permet aux femmes d'accéder au plaisir et aux innovations concernant la sexualité. En lien avec le salon, donc en lien avec ce secteur qui était d'abord une bonne idée pour les participants, les participantes et les membres du jury, Et une fois qu'elle a été, que cette innovation, création a été récompensée, ça a eu plus d'écho, ça a eu plus de visibilité, et donc des personnes, une institution peut-être un peu au-dessus du jury qui a décerné le prix, a trouvé ça obscène et a donc censuré, retiré le prix, puis retiré, censuré l'innovation du salon tout entier, quoi.
Par rapport à l'industrie du sexe, il y a une marque qui s'est créée en 2013 au Royaume-Uni, qui s'appelle Smile Markers, qui, en gros, c'est une marque de vibromasseurs féminins. Ils ont fait... c'est plusieurs personnes qui avaient des boulots qui n'avaient aucun rapport avec la sexualité, etc., qui un jour se sont intéressés qu'est-ce qu'on fait de la sexualité féminine, qu'est-ce qu'on fait des sextoys féminins, quelle est l'opinion des gens. Ils ont fait une étude et ils ont découvert au Royaume-Uni, au niveau des pourcentages, qu'il y avait plus de femmes qui avaient un vibromasseur que de ménages qui avaient un lave-vaisselle. Ce qui est quand même, je trouve, assez drôle. Et qu'ailleurs, en Europe, 50% des femmes soit en avaient un ou soit aimeraient essayer. Et que la raison pour laquelle ça ne se faisait pas, c'est que le lieu où on achète des sextoys est soit hyper glauque, c'est genre le sex shop au fond de la ruelle où on n'y va pas, on a l'impression qu'en touchant la poignée de la porte, on va attraper le sida. Ou soit le design des produits... Et le design, la qualité est soit décevante, soit hyper irrespectueuse pour les femmes. C'est tout de suite, c'est une représentation ultra phallique ou c'est dans une logique de remplacement. Oui, tu as une sexualité, mais quand même, il faudrait pas que tu oublies que à la base, c'est pour l'homme que tu as une sexualité. Donc, dans une logique de remplacement et pas dans un principe de masturbation, de plaisir et de moment à soi. Mmh. Et du coup, ils ont créé cette marque. Et donc ils ont fait leur marque avec une charte éthique comme quoi en gros leur sextoy ne serait jamais vendu dans des sex shops, que ce serait toujours vendu dans des magasins, soit des supermarchés ou des magasins de santé, de beauté, etc. Et c'est une marque qui fait beaucoup de campagnes de sensibilisation sur le bien-être sexuel, sur par exemple une femme qui sort d'un cancer, comment elle se réapproprie son corps, et que ça peut aussi passer par la sexualité, aussi passer par le plaisir féminin, le plaisir seul, et que et voilà, et les sextoys sont pas, c'est pas genre waouh, on a fait une reproduction d'un pénis super avec les veines qui ressortent et tout, génial machin. Et en gros, ils ont que 5 produits qui sont basés vraiment sur des approches différentes du plaisir, et au final chacune peut s'y retrouver sans se dire ah mon dieu, j'ai fait quelque chose de immonde. Et je trouve que c'est une belle initiative, et ça a été fait en 2013, donc c'est quand même assez récent. Et leur slogan sur leur site, c'est « Parler de la sexualité féminine aide à normaliser la perception et changer les mentalités comme on sont maintenant ». Je trouve ça plutôt pas mal, plutôt qu'un truc « Comment aller le plus profond possible ».
Je suis d'accord.
Sur le changement des mentalités, on a encore un peu de boulot à faire. J'ai eu une intervention il y a un mois à peu près sur l'égalité femmes-hommes, justement. Et on est parti sur ça, un petit peu sur l'image de la femme... qui s'épanouit dans sa vie sexuelle. Et un jeune homme qui avait 18-19 ans nous a dit « Moi, le jour où je me pose avec une fille, il faudra que ce soit une fille qui se respecte. » Donc là, on est parti. Qu'est-ce que c'est qu'une fille qui se respecte ? Il nous a répondu « C'est une fille qui couche pas avec un mec qu'elle vient de rencontrer. » On est parti un petit peu, on a discuté, tout ça. Et il a fini par nous avouer que lui, il l'avait déjà fait coucher avec une fille qu'il venait de rencontrer. On lui a posé la question « Mais alors, du coup, tu te respectes pas ?»« Si !» Mais alors du coup, tu as couché avec une fille que tu considères qui ne se respecte pas.
Vous étiez deux, c'était une fille en face de toi.
C'est ça. Et là, il a bugué. Vraiment, il a bugué. Il s'est dit, ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Et après quelques secondes de réflexion, il a quand même conclu par, oui, mais c'est pas pareil.
Voilà, c'est jamais pareil du côté des hommes. C'est marrant, hein. Comprends pas ça.
Et donc c'est ça, le double de standard.
Ouais, ouais, ouais. Okay. Qui est bien installé.
Mmh. On a encore... peut-être quelques 5 minutes sur cette discussion-là. Donc moi, je voulais en dernier aspect, en dernier sujet lié à l'actualité, parler justement des femmes innovatrices, des femmes entrepreneuses qui subissent aussi quelques embûches en plus que si elles étaient des hommes. Pour les innovatrices contemporaines actuelles, mais aussi au cours de l'histoire, les femmes qui créent, les femmes qui trouvent des choses sont souvent dévaluées, voire même on s'accapare complètement leur création. Est-ce qu'on a des exemples comme ça pour appuyer ce que je suis en train de dire sur les femmes qui on interdit des innovations? Il y en a des masses.
Ouais. Bah, Mélanie. Mélanie à peu près, parce qu'en fait, je ne retiens pas les noms, hélas. Heureusement, il y a les culottés pour ça, de Pénélope Bagieu. Ouais. Mais les femmes, dans les grandes historiennes ou les grandes scientifiques, c'est toujours ça. Hein. Einstein, en fait, il n'a pas réussi son truc tout seul. Il y avait une femme avant. Mais hélas, on ne retient que Einstein. C'est dommage. Même moi, tu vois. Encore des progrès à faire là-dessus.
Et j'ai appris il n'y a pas si longtemps aussi que le Wi-Fi était une invention
féminine. Ouais.
Je ne me souviens plus du nom de la personne. C'était une actrice à la base.
Oui, elle était sublime d'ailleurs.
Oui, voilà, et justement, c'est ça.
On ne retient que ça d'elle d'ailleurs.
Oui, exactement. C'est ça. Et quand elle a commencé à travailler sur ça, justement, on ne l'a pas prise au sérieux. Parce que c'était une actrice et qu'elle était connue pour sa beauté et non pas pour son intelligence.
C'est son passe-temps, je crois. Elle adorait comme ça créer des trucs.
Exactement.
Un destin assez fou. Mais elle a été dessinée par Pénélope Bagieu, du coup.
Ah oui ?
Ouais, elle a sa page.
Voilà.
Donc il faut lire et relire et relire Les Culottés.
Les Culottés de Pénélope Bagieu.
On l'a bien aimé, hein, si vous n'aviez pas compris.
Il y a un dessin animé qui sort en 2020.
Sur Les Culottés ?
Une série animée, ouais.
Une série animée qui va être diffusée sur France Télévisions.
Destinée aux enfants ou destinée...
Ça va être une pastille, je crois, de 3 minutes. Donc,
qui passera sur...
C'est France Télévisions,
France Télévisions,
ouais. Un peu comme Dardar, le truc...
C'est ça,
ouais.
C'est
ça. Stylé.
Et donc, voilà. En plus des culottés de Pénélope Bagieu, on a aussi quelques vidéastes qui rendent hommage donc, à ces femmes innovatrices ou entrepreneuses qui n'ont pas été... n'ont pas suffisamment connu de succès de leur vivant. Donc, on a notamment la chaîne de Aude Gonigoubert.
Virago. Ouais,
Virago. Super, ça. Et donc, voilà, une vidéo par femme, une vidéo par histoire, par récit de vie. Et donc, il n'y a pas que des inventeuses, que des personnes qui ont créé des choses. Il y a aussi des femmes qui ont eu des destins exceptionnels, des femmes qui ont traversé les océans par elles-mêmes, toutes seules. Et des fois, c'était la première fois qu'on parvenait à faire ça. Et, et voilà, ça a été minimisé du fait de leur sexe et de leur appartenance. Donc, aux femmes. Et puis on a aussi quelques vidéos, pour le coup c'est une chaîne YouTube qui a plusieurs formats, mais sur String Theory on a aussi quelques vidéos qui sont réalisées avec Marion Seclin, où pareil elle rentre dans le rôle, dans la peau d'une inventrice, et donc on retrouve Ada Lovelace, tout ça, ce genre de personnes aussi qui ont créé, qui ont été très importantes pour le développement de l'informatique, le développement de la médecine actuelle, etc. etc. Et donc voilà, il y a quand même aujourd'hui...
On les réhabilite doucement, quoi.
On les réhabilite doucement.
Elles ont été effacées de l'histoire, mais elles reviennent tout doucement.
Ouais, il y a une volonté de réécrire l'histoire...
Complètement.
Au féminin et au masculin, mais... Et pas juste...
Ouais.
Unilatéralement.
On va s'arrêter pour la discussion. Merci beaucoup, Romane, Mélanie, Ophélie, Anaïs.
Et Merlin.
Oui. Et donc on va enchaîner sur une chronique. Et la dernière fois c'était Romane qui s'y collait. Et là on va équiper Anaïs. C'est à son tour. Anaïs, de quoi traite ta chronique aujourd'hui ?
Alors ma chronique s'appelle « Comment répondre à tonton relou ?» Alors en fait je suis partie du constat qu'on a déjà toutes et tous été face à une personne, que ce soit genre à une réunion de famille, pendant une soirée avec des potes ou pendant un café avec des collègues, quitte à sortir un bon vieux poncif sexiste. Alors le problème c'est que dans ce genre de situation c'est pas toujours simple de trouver les mots justes pour réussir à convaincre la personne qui est en face de toi. Si en plus t'es comme moi, c'est-à-dire attaché à ces questions et un peu trop émotif, bah t'as juste tendance à t'énerver et à pas réussir à parler, hein. Donc tu bégayes trois mots puis tu finis par aller t'étouffer dans ton indignation en silence. Voilà. Du coup, ce que je te propose, c'est de te donner des pistes pour briller en société et puis répondre sereinement à une personne qui t'a un peu gonflé. Et donc le premier sujet dont j'avais envie de vous parler, c'est l'écriture inclusive et plus largement le langage neutre. Alors qu'est-ce que c'est que l'écriture inclusive ? Ça correspond à un ensemble de règles et de pratiques qui cherchent à éviter toute discrimination. Ça se fait à travers le choix des mots, de la syntaxe, la grammaire ou la typographie. Et alors qu'est-ce que tonton relou il pourrait dire sur l'écriture inclusive ? Bah que franchement c'est compliqué, c'est moche, ça sert à rien, que de toute façon on a toujours écrit comme ça, enfin bref, que l'intérêt de l'écriture inclusive, comme ça, c'est pas trop évident, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à tout ça ? Alors, ça a toujours été comme ça. Bah écoute, vraiment, non, pour le coup, on peut dire que c'était mieux avant. Puisqu'avant une décision de l'Académie française au XVIIe siècle, on utilisait des mots tels que écrivaine, poétesse, peintresse. Et l'Académie française a décidé, en fait, d'interdire leur usage, puisqu'il s'agissait de métiers que les femmes n'étaient pas dignes d'exercer. Voilà, donc décision évidemment prise par une assemblée 100% masculine, puisqu'il a fallu attendre 1980 pour qu'une première femme arrive à l'Académie française. Voilà, sinon c'est pas drôle. Et puis alors, est-ce qu'on se rappelle un petit peu du fameux « le masculin l'emporte sur le féminin » qu'on nous enseigne à l'école ? Alors ça, ça date du XVIIIe siècle. Avant ça, on utilisait la règle de proximité. En gros, ça consistait à accorder le genre de l'adjectif avec le plus proche des mots qu'il qualifie. Donc par exemple, aujourd'hui, on dit « les garçons et les filles sont joyeux », puisque du coup, le masculin l'emporte sur le féminin. À l'époque, on aurait dit « les garçons et les filles sont joyeuses ». On accordait « joyeuses » avec « filles », qui du coup était le mot le plus proche. Et donc, pour justifier l'abandon de cette règle, on retrouve vraiment des arguments en béton. Hein. L'abbé Bourse nous dit en 1675 que quand les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte.
Wow.
Et le grammairien Bozet a complété en 1767 en nous disant que le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Voilà, on aime, on adore. Donc en fait, on n'a vraiment pas toujours écrit comme ça. On l'a fait à partir du moment où des esprits brillants ont décidé de rendre la langue française aussi sexiste qu'eux. Alors, ensuite, l'argument, c'est compliqué. Alors, comment dire que si vous arrivez à dire facteur-factrice, je pense que vous arriverez à dire auteur-autrice. Je pense que ça devrait bien se passer. Et plus sérieusement, écrire dans un mail « bonjour à toutes et à tous », ça prend juste 2 secondes. Et si vraiment vous avez envie d'un peu de challenge, vous pouvez apprendre le raccourci clavier du point médian. Alors, c'est Alt plus 0183 pour ceux que ça intéresse. Et là, tu deviens carrément le maître du game de l'écriture inclusive. Ensuite, l'argument, c'est moche. Alors là, j'avoue que j'ai pas trop d'arguments là-dessus. Même si je pense que la beauté est une notion toute subjective. Donc, au final, chacun et chacune a sa propre idée. Après, moi, vraiment, lire ça pompière ou doctoresse, ça me pique pas plus les yeux que de lire concubinage ou cartilagineux, qui sont pour moi des mots vraiment très laids, quoi. Plus sérieusement, je pense qu'on devrait pas choisir les mots parce qu'ils sont jolis, mais plutôt pour qu'ils soient justes. Et vu qu'en ce moment, que ce soit dans la langue française ou dans la société en général, la situation des femmes n'est pas très jojo, un petit effort serait le bienvenu sur cet aspect-là. Et enfin, le dernier argument qui est le plus complet, en gros, ça sert à rien ou c'est très bien comme ça actuellement, c'est-à-dire je vois pas trop l'intérêt de l'écriture inclusive. Alors vraiment, je pense que entendre pendant une bonne partie de ton apprentissage que le masculin l'emporte sur le féminin, ça finit par avoir un impact sur les filles. Que si les règles de grammaire le disent, c'est peut-être que c'est vrai finalement que les filles sont le sexe faible, qu'on est moins fort, moins intéressante que les garçons, et que du coup, ça finit... On démarre dans la vie en nous apprenant que les filles, voilà, sont inférieures aux garçons. Au niveau professionnel, je pense que si on entendait plus souvent parler de personnes d'entretien plutôt que de femmes de ménage, on arrêterait d'associer systématiquement les femmes à ce sujet à ce métier en particulier. Limite, on en viendrait à se dire que les tâches ménagères ne sont pas une histoire que de femmes. Déjà. Ensuite, c'est pas qu'une histoire de mots. Y a vraiment des gens qui s'opposent très fermement et parfois de manière ridicule à ce mouvement. Et je pense que ces gens-là, ils n'avouent pas vraiment le fond de leur pensée. Alors quand j'en vois qui montent dans les tours, qui parlent de péril mortel pour une histoire de point médian, alors d'un côté, je me marre un peu parce que franchement, je trouve ça excessif. Et surtout, je me demande ce qui leur fait si peur en fait à ces gens-là. Et quant à celles et ceux qui disent qu'il y a des luttes plus importantes à mener, alors déjà en général, ces gens-là, on les entend pas trop sur le féminisme le reste du temps. Donc commencez par lutter avec nous, puis après, du coup, on en reparlera. Hein. Et enfin, je crois que le langage a une portée très symbolique, donc le choix des mots est politique. Et c'est logique qu'une société qui tend vers plus d'égalité change sa manière de s'exprimer. Voilà, bah écoute, j'espère que je vous ai un petit peu aidé à organiser vos idées sur ce merveilleux sujet qu'est l'écriture inclusive. Bon courage pour répondre au prochain tonton relou, ou tata relou d'ailleurs, il faut que je sois cohérente jusqu'au bout, que tu rencontreras, et à bientôt pour une nouvelle chronique.
Merci beaucoup Anaïs. Des réactions par rapport à ça, Ophélie ?
Oui, alors déjà merci Anaïs pour ta chronique très constructive et qui je pense aidera beaucoup de gens à répondre à ce genre de pic. Et juste pour compléter ce que tu as très bien dit sur la valeur des mots, le masculin l'emporte sur le féminin, lors d'une intervention en lycée, on a un lycéen donc de 16 ans qui nous a dit ah oui, le masculin l'emporte sur le féminin, donc du coup l'homme l'emporte sur la femme. Il a vraiment fait le raccourci.
Association d'idées, ouais.
C'est ça. Et il ne s'en est pas rendu compte. On a dû lui expliquer. Non, c'est le genre masculin dans la langue française. Et c'est après qu'il s'en est rendu compte.
Et puis on va te dire, le masculin est neutre, tu sais. C'est ça. Il globalise tout et tout.
Donc je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que les mots ont une force,
comme quoi,
grosse portée.
Ouais. La linguistique a encore beaucoup de travail à faire.
C'est une façon de se représenter le monde aussi, la communication et tout. Donc c'est quel monde tu transmets. Et un monde où il n'y a pas de femmes, du coup.
Puis ce qui est fou, c'est que vraiment, les gens pensent qu'on a toujours parlé comme ça, alors que ouais, le terme de autrice, notamment, tout le monde dit que
pour Abbé,
c'est moche et tout,
aussi,
mais en fait, on a avant, on parlait comme ça, quoi. Donc, enfin...
Il n'y avait pas de problème.
Ouais.
Revenons au Moyen-Âge, putain.
Mais quand tu vois les trucs de l'Académie française,
c'était mieux avant.
Il faut réhabiliter le Moyen-Âge.
Ok, merci. On en reparlera avec plaisir lors d'une prochaine émission. Mais c'est vrai que c'est un sujet passionnant. Anaïs, on retrouvera le texte de ta chronique sur le site, sur le blog du réseau. Donc, il y a une nouvelle adresse mail. Je vous la donne une adresse web, une URL. Je vous la donne en exclusivité. C'est www.leréseaudesimone, tout en attaché en minuscule, sans accent, .fr. On va se faire une petite pause musicale, donc un second titre choisi par Zoé, notre programmatrice musicale. Maintenant, on écoute Zoé. Don't Care de Coeli. J'espère que j'ai bien prononcé. Coeli, Don't Care.
Patient, yeah, they told me to be waiting. Convoys, but they never really did think I would sign my name to a label. Then it's Nick Cody's gonna make it. This girl got skills that's real. Now they all think it's easy to think that they're gonna get a deal with a happy meal. Unloaded, for sorry, gotta work hard, no party. Straight to the top, no, never gonna stop, true story. We on a mission, slave ships to spaceships. One day we'll all be millionaires, but billionaires go next. Very, very, no fantasies. Keep talking. I'm sorry, but I don't care. Don't care. I swear to God, I can't bring me down. So fuck it, I got it. You feeling me now? Don't care. Don't care. I swear to God, I can't bring me down. So fuck it, I got it. I got it. I got it. I'ma make it. Cause I've been changing the manual. Me and defeat incompatible. On top of my game, taking over your capital. Stand alone. From the ground to the pedestal. Been late but the underdog. But now we're ready for war. Now they shoot but we ricochet. My clique's name's on top of my resume. Fuck it, let them hate. Say what you want but it's all we say straight. Piece of cake, I'm on my own way. Take it to Wonderland. But we don't play, we here to stay. That's so hard to understand. We let no fantasies, keep talking. Sorry but I
They say the boy so modest, I said the boy so real. Oh, he don't look like an artist, but that's just a part of the deal. My life goes up and down like it was written in Braille. Now you wanna hop on my boat? So I read the ship to sail.
Excuse me?
Yeah, I got a little bit of action for you.
Action for ya.
Take it down to the paint, Picasso moment, taking over, I'm gone. Gone with the wind, so gone like, bro, where you been? You're not rocking with the best, it's time for the next. Gotta confess, oh, buddy, I
don't care. Don't care. I swear to God, I can't bring me down. So fuck it, I got it, you feeling me now.
Vous écoutez toujours Ménage-toi Simone, l'épisode numéro 2 sur Radio Campus Tour 99.5 ou radiocampustour.com si vous nous écoutez en podcast. Donc c'était Don't Care de Coeli, qui a fait suite donc à la superbe chronique d'Anaïs sur l'écriture inclusive.
Merci Anaïs.
On attaque le dernier tiers de notre émission. Et là, c'est la rubrique où on dit les bonnes nouvelles, en fait. La rubrique « Tout n'est pas perdu », où on dit un petit peu les infos réconfortantes, les nouvelles réconfortantes concernant la lutte et l'avancée dans l'égalité entre les femmes et les hommes. Anaïs, tu voulais commencer par nous partager quelque chose?
Deux choses même, parce que normalement on en dit qu'une, mais moi j'ai envie d'en dire deux.
Ça marche.
J'en dis deux. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que cette année, le Grand Prix d'Angoulême, c'était une femme. C'était Rumiko Takahashi, qui est une mangaka japonaise. C'est seulement la deuxième femme à l'avoir, quand même, après Florence Sestak en 2000. Donc, c'est cool, mais on peut quand même mieux faire. J'espère qu'il y aura d'autres femmes qui seront Grand Prix à Angoulême. Et la deuxième bonne nouvelle, alors ça peut paraître un peu glauque comme ça, mais c'est le procès du 36 qui est des orfèvres, et ce que moi j'en ai retiré de positif. Donc pour expliquer un peu, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a deux policiers qui ont été reconnus coupables de viol en réunion sur une touriste canadienne dans les locaux de la police judiciaire à Paris en 2014. Alors c'est pas la condamnation en soi qui pour moi est une bonne nouvelle, enfin même si
surtout qu'ils font appel.
Voilà, ils font appel. Pour moi le truc positif que j'en retire, c'est des phrases marquantes qui ont été dites pendant ce procès. D'ailleurs je remercie Marie Barbier qui est journaliste à l'Humanité et qui fait un live tweet de très grande qualité sur Twitter. Elle fait aussi un live tweet là du procès Baupin en ce moment, c'est vraiment génial. Je vous conseille de suivre son actualité. Et donc il y a une phrase que j'ai retenue qui est « On peut embrasser à 22h et refuser d'avoir des relations sexuelles à 1h du matin ». C'est l'avocat général qui a dit ça. On parle de consentement. Même si ça semble évident, en fait, cette phrase, ça fait quand même du bien de l'entendre, parce que pour certains, en fait, c'est pas...
Oui, dans une cour, ça fait du bien de l'entendre.
Voilà, c'est ça. Enfin, vraiment, le fait d'entendre que le consentement, il n'appartient qu'à la personne qui le donne et qu'elle peut le reprendre au moment où elle le veut. Voilà, moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Voilà.
Ok, merci Anaïs donc pour ces deux bonnes nouvelles. Qui souhaite enchaîner?
Moi, je vais vous parler un peu de bioéthique sur la condition des intersexes en France. Donc, après des années de lutte, de condamnation par l'ONU, de mise en garde, le 15 janvier, la France a révisé sa loi sur la bioéthique et a inclus, enfin, un article sur la condition des intersexes. Et maintenant, il est jugé illégal de faire une modification sur les caractères sexuels primaires ou secondaires des personnes intersexes sans leur consentement libre et éclairé. Consentement libre et éclairé, ça veut dire que le médecin à la naissance ne décide pas si c'est une fille ou un garçon. Les parents ne décident pas non plus, chose qui était faite avant, de manière totalement arbitraire, et qui a été jugée par l'ONU comme acte de torture et acte de barbarie. Donc je trouve que un petit retour à la dignité humaine, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
Super, merci Romane. Ophélie, tu enchaînes ?
Oui, alors moi je voulais vous parler de l'upskirting. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de soulever la jupe d'une femme d'une robe ou d'une jupe d'une femme et de filmer ses dessous ou de les photographier à son insu. Donc c'est une pratique qui va être condamnée au Royaume-Uni suite à une campagne intense de Gina Martin, campagne qui a duré quand même 18 mois. Et c'est une avancée considérable dans la lutte contre le harcèlement sexuel. Et je rappelle juste qu'en France, c'est un délit qui est maintenant puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.
Ce qui n'est pas dommage.
Mmh. C'est clair.
Donc, petite amélioration pénale pour le coup. Mmh.
Exactement.
Ça marche. Merci Ophélie. Moi, je voulais parler de Ferdaous Elbeni. Donc, c'est une étudiante de 23 ans. 1995, meilleure année.
Non, 91.
Ce n'est pas le sujet. C'est mon moment, j'ai dit 95, c'était mieux. Ferdaous Elbeni, donc elle est étudiante à Orléans, à côté d'ici. Et donc elle a 23 ans, elle est étudiante en chimie et cosmétique. Et donc en plus d'être une étudiante émérite, rigoureuse, c'est une entrepreneuse. Elle souhaite en fait terminer ses études en lançant sur le marché un nouveau produit, un nouvel objet qui n'existe pas encore. Elle consacre la fin de ses études à créer un nouvel objet qui est une ceinture chauffante et qui permettrait de lutter contre les douleurs liées aux règles. En fait, elle termine ses études par la création de cet objet. Et donc elle travaille avec d'autres entrepreneuses qui sont plus sur le textile ou sur le design, ce genre de trucs. Elle est sur la partie chimie du coup, la partie comment un vêtement peut chauffer par lui-même sans que ça soit radioactif et super mauvais pour la santé. Et donc voilà, elle vient d'Orléans, c'est à côté de chez nous, et en plus elle vient voilà d'un quartier défavorisé, elle a pas eu elle a dû se battre pour en arriver là. Et voilà, ses succès sont bientôt récompensés parce que son produit est, si tout se passe bien, sur le marché l'année prochaine. Voilà pour moi. Mélanie ?
Ouais, moi j'avais envie de faire un big up aux militantes féministes italiennes à travers leur mouvement Non Una Di Meno, pas une de moins en français, qui a été fondée en fait en 2016. Donc elles incarnent plus que jamais la résistance face au gouvernement actuel de coalition. Je vous rappelle, c'est la Ligue d'extrême droite et le mouvement des 5 étoiles, qui font du coup de la famille une priorité, et la famille traditionnelle est au cœur de leur projet politique. Et ils ont un certain nombre de lois en préparation qui sont assez inquiétantes en fait pour le droit des femmes. Par exemple, le gouvernement veut réformer le droit des familles, rendre le divorce plus difficile en étant plus cher en fait, avec l'obligation d'avoir recours à un médiateur familial qui sera forcément payant, supprimer les pensions alimentaires, instaurer une garde alternée systématique, bref, des trucs très joyeux. En plus de ça, en Italie, désormais, il est très très difficile d'avoir accès à l'IVG. En cause, c'est l'influence grandissante du catholicisme conservateur qui s'implante dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Par exemple, les universités catholiques forment les médecins de demain qui deviennent forcément des objecteurs de conscience et qui refusent de pratiquer l'IVG et font des propagandes pro-vie. Bref, l'idée c'était de rendre hommage en fait à ces femmes qui se battent et qui deviennent en fait une vraie force d'opposition par rapport à ce gouvernement, et elles sont en nombre en fait dans les rues. On n'a pas parlé de novembre dernier, elles sont descendues vraiment très nombreuses dans les rues de Rome. Donc elles sont prêtes, comme leurs aînés, à partir au combat, et elles ont du mérite.
Merci Mélanie, merci à toutes pour ces bonnes nouvelles qui font un peu chaud au cœur. On se quitte bientôt, on se quitte dans 10 minutes, mais avant on va vous laisser avec des recommandations culturelles, les choses qu'on a aimé voir ou faire récemment en lien avec la culture et que l'on vous recommande. Donc qui souhaite commencer ? Je peux commencer si vous voulez,
vas-y.
Pour une fois. Moi j'ai été mardi dernier, donc c'était le 5 février, à Telem, il y avait un spectacle, une pièce de théâtre qui s'appelle Depuis l'aube, et le sous-texte, entre parenthèses, c'est Ode au clitoris au pluriel. Et voilà, donc la metteuse en scène, l'autrice de cette pièce de théâtre, elle a décidé d'écrire cette pièce suite à une vidéo qu'elle a vue sur internet d'une jeune femme belge qui avait mis une petite caméra dans son sac et qui filmait derrière elle les réactions des passants, des hommes essentiellement, les réactions qu'ils avaient lorsqu'elle marchait dans la rue. Et donc elle a capté par une vidéo tous les regards, les remarques ou même les personnes qui la suivaient de temps en temps, et à partir de ça elle a dit il faut que j'écrive sur ça. Et en fait, à partir du moment où elle s'est mise à écrire, et ben elle a parlé de bien plus de choses que le harcèlement de rue. Et donc en fait, dans la pièce, on retrouve un petit peu tout, entre le harcèlement de rue, les violences conjugales, le viol conjugal également, mais aussi l'excision, tout y passe dans une pièce qui est très édulcorée entre le dramatique, l'humoristique, on rit et on pleure. Et voilà, dans la mise en scène, en fait, il y a trois comédiens et comédiennes sur scène. Il y a elle, donc l'autrice, avec deux hommes. Donc ça fait que la thématique est abordée, bah, du coup, par des comédiens mixtes, quoi. Et ça fait du bien aussi d'entendre des hommes parler de ça. Et voilà, en plus, il y a du chant, il y a des danses, il y a une batterie sur scène, et du coup, il y a un des comédiens qui joue de la musique régulièrement pour accompagner le tout. Et c'est vraiment très bien. On recommande. Bon, ça n'avait, il n'y avait qu'une représentation à Tours. Les comédiens, les comédiennes viennent de Savoie. Donc, ils vont la refaire en Savoie, mais aussi un peu partout en France, à Paris notamment aussi prochainement. Donc, surveillez ça s'appelle Ode au clitoris, ou si Depuis l'aube. Et voilà, on espère qu'il y aura tôt ou tard une captation vidéo et qu'on pourra trouver ça sur les internets ou bien en DVD pour que vous puissiez voir ça. Voilà pour moi. Ensuite, Mélanie, c'est parti.
Moi, je vais vous parler de Sex Education. C'est une des dernières créations de Netflix, forcément, qui aborde la question ô combien fondamentale et cruciale de l'éducation sexuelle, et qui l'aborde assez franchement d'ailleurs, et de manière surtout décomplexée et bienveillante. Bon, il y a un univers aussi visuel et musical bien à elle qui est assez chouette aussi. Le pitch, c'est la création de thérapies sexuelles secrètes au sein d'un lycée par deux adolescents, Maeve, la rebelle cool du lycée, et Otis, l'ado timide et vierge, dont la mère est sexologue. Et la mère, c'est Gillian Anderson, elle est trop bien. Ce qui fait qu'Otis, en fait, il a énormément de connaissances pour son âge dans un domaine dans lequel il est lui-même inexpérimenté. Et ça donne lieu à toutes sortes de situations assez funky et à des problèmes à traiter pour Otis et tous ses amis. Donc la série, elle est super top. Il faut la regarder.
On l'aime vraiment, s'il vous plaît, regardez-la, c'est tellement bien.
Et elle dépasse vraiment tous les clichés. Elle regroupe tous les clichés des teen movies, vraiment. Elle a l'ado rebelle, le vierge timide pas bien, le sportif sous pression, l'ami qui est noir, gay, excentrique, tout ça. Mais ils gagnent tous en épaisseur au fur et à mesure des épisodes. Et ça aborde vraiment plein de thématiques différentes, sexuelles et identitaires. Il y a plein de sujets, la masturbation masculine et des difficultés aussi autour de la masturbation masculine, mais aussi féminine. L'homosexualité, bien sûr, l'avortement, bref, ça touche à plein de trucs. Et par exemple, moi, ce que j'ai vachement aimé, c'est que ça donnait aussi une vision plurielle de la masculinité et des désirs masculins. Il y a plein de façons d'être garçon et c'est vachement bien montré dedans. Bref, donc Sex Education, c'est super chouette. C'est aussi super drôle, c'est l'humour anglais. Donc il y a des méga punchlines. Et ça propose enfin une approche positive et amusante de la découverte de la sexualité pour les adolescents et pour les plus grands. Donc regardez-la, bonne soirée garantie.
Merci beaucoup Mélanie. Est-ce qu'on peut espérer une saison 2 peut-être? On sait
oui,
pas, moi je l'ai pas
oui.
vu.
Elle est en production la saison 2 je crois.
Très bien.
Ouais, c'est un énorme carton, donc du coup il y a une saison 2 qui va arriver. Je suis très contente, si vous aviez pas encore compris, j'adore cette série.
On attend. Oui,
on surveillera ça. Qui d'autre nous partage une recommandation culturelle?
Je vous propose une petite lecture avant de vous parler du livre qui a été mon coup de cœur. Donc, j'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d'autres, que d'autres se fassent épouser, dès qu'ils sentent le sexe, et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école. Donc, voici la première page du livre de Virginie Despentes, The King Kong Theory. Elle y parle de manière crue, sans aucun détour, du sexisme, du viol, de la prostitution, de la pornographie, des diktats de la féminité, du machisme, à travers des éléments de sa vie qui, avouons-le, plutôt chargés. Donc c'est un livre qui m'a vraiment poussée dans mes retranchements, autant par des moments où je me disais « mais non, genre pas du tout », et d'autres « mais oui, tellement ». Et je trouve que c'est un livre qui à la fois bouscule, interroge et dérange. Et j'aime bien cette sensation d'être dans un champ de ruines en sortant d'un bouquin où je me dis « j'ai toute ma pensée à refaire. » Et donc, oui, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur.
Et Virginie Despentes est vraiment une écrivaine fantastique. Moi, je recommande Vernon Subutex. C'est super. Ouais.
Merci beaucoup. On écoute. Et ensuite, Anaïs, c'est parti.
Alors moi, je vais vous parler des deux films d'Amy Schumer que j'ai vus il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est des comédies américaines, hein, voilà. La première s'appelle I Feel Pretty et la deuxième Crazy Amy. Et je trouve que les deux... véhicule un message plutôt positif. Alors, Crazy Amy parle d'une femme un peu un donjon au féminin, donc j'ai trouvé ça très cool d'avoir pour une fois une femme dans ce genre de rôle. Et le deuxième, donc I Feel Pretty, ça parle d'une fille qui a pas du tout confiance en elle parce que elle colle pas trop, on va dire, au code de beauté féminin. Et en fait, un jour, elle va à une énième séance de sport pour essayer de perdre du poids. Et en fait, suite, elle fait une énorme chute. Bon, c'est très drôle, hein. Elle s'éclate la tête par terre. Et en fait, suite à ça, elle se trouve géniale. En fait, tous ses freins sautent. Elle devient une meuf formidable. Elle a hyper confiance en elle. Et du coup, c'est vraiment trop bien. Enfin, ça parle de... Du coup, un peu de body positive et du fait que voilà, on est les seules personnes à se mettre des freins et que si on pense qu'on est fantastique et qu'on a confiance en nous, en fait, il y a pas grand chose qu'on rate, quoi. Voilà.
Et c'est sur Netflix, non tout ça?
Alors, Crazy Amy, il est pas sur Netflix. Par contre, I Feel Pretty, oui, il est sur Netflix. Je crois que les deux sont sur Netflix. Enfin voilà, au pire ça se trouve. Hein. Je compte sur vous.
Mais
voilà, donc voilà, c'est les comédies américaines. C'est pas toujours très fin, mais moi j'ai passé un très bon moment et je trouve que pour une fois une comédie américaine avec un message positif, c'est cool. Voilà.
Merci. Ophélie ?
Et oui, pour terminer, moi je voulais vous parler de la soirée Bifur Queer qui a lieu le vendredi 1er février et donc qui a été organisée par le collectif Trouble dans le cadre du festival Désir Désir. Alors que dire sur cette soirée, à part juste que j'en ressors, c'est vraiment une extrême bienveillance. Où tout le monde est décomplexé, où la rencontre est propice, où tout le monde parle avec tout le monde, vraiment un peu d'extravagance, un peu de burlesque, enfin vraiment en fait c'est ce sentiment où vous pouvez être qui vous êtes et où personne vous juge, vous pouvez passer la soirée en maillot de bain et vous vous sentez tellement bien, C'est véridique, je l'ai fait, j'ai testé pour vous. Vraiment, c'est un autre monde et c'est, comment dire, enfin, j'y allais, je ne connaissais pas vraiment la culture queer, j'en entendais dans les médias, dans la culture, tout ça, mais je ne l'avais pas vécu en réel et j'en ressors vraiment de cette soirée grandie, si on peut dire, enfin, avec plus de confiance, vraiment très contente. C'est, j'attends avec impatience l'édition 2 qui, j'espère, arrivera bientôt. On vous en reparlera si c'est le cas, mais vraiment, si vous avez l'occasion d'aller dans ce genre de soirée, je vous le conseille vivement.
Ça marche. Merci Ophélie. Merci à toutes pour vos recommandations culturelles. C'est l'heure de se quitter. Je vous laisse juste avec les événements qui vont avoir lieu à Tours ou pas loin de Tours. Puis aussi notre actualité à nous, au réseau des jeunes ambassadrices de l'égalité femmes-hommes. Donc, premièrement, on a lundi 4 mars à 18h. Et si vous n'êtes pas disponible lundi 4 mars à 18h, c'est tous les premiers lundis de chaque mois. C'est au centre pluriel du Sanitas. C'est d'ailleurs, nous sommes d'ici. Nous sommes du 37, d'ailleurs. D'ailleurs, nous sommes du 37, mais qui se décline avec d'autres départements, d'autres numéros dans d'autres départements. Et donc, c'est une association qui organise donc une rencontre pour échanger et s'informer sur la discrimination, le sexisme, le racisme. Voilà, c'est des permanences qui ont lieu une fois par mois. Donc, au centre pluriel du Sanitas, une fois par mois, si on veut se renseigner ou si on veut dénoncer ou si les discriminations qu'on subit, on peut aller les voir. Et donc, c'est des personnes qui sont ressources pour s'informer sur ça, mais aussi pour lutter contre ça. Également, on a l'association Résistance à l'agression publicitaire qui a co-organisé une séance au CNP qui avait lieu jeudi dernier, on était le 7 février. Ils ont co-organisé une projection débat du CNP concernant la publicité sexiste. Et suite à cette projection, en fait, elles font une réunion publique le 22 février au bar Le Serpent Volant. Donc voilà, c'est si on trouve que l'affichage publicitaire dans la rue, il est sexiste ou il est oppressif ou il est dégueulasse ou juste on n'a pas envie de le voir parce que on nous a pas consulté pour nous imposer ça. On peut aller rencontrer ces personnes-là et puis voir ce qu'on peut faire, comment on peut agir, une autre forme de militantisme. Ensuite, on a une initiative étudiante qui sort de nulle part. Je les ai rencontrés au Tanner, c'était également jeudi. Jeudi 7 février. Donc voilà, trois filles, trois étudiantes. Je suis un big up à Anaïs, Jade et Tiffen, qu'on décidé de lancer la mission tampon. Donc voilà, en fait, elles ont par elles-mêmes décidé de faire une vente de gâteaux pour récolter des fonds dans le but de faire une distribution gratuite de protection hygiénique pour les étudiantes qui seraient en précarité, qui souffriraient de ce qu'on appelle la précarité menstruelle. Et donc voilà, ça sort de nulle part, c'est pas du tout soutenu par aucune association, parce que c'est vraiment elles qui ont décidé de lancer ça par elles-mêmes. Et voilà, suite à cette première action, cette première vente de gâteaux, il me semble qu'elles vont rencontrer quelques personnes de l'université pour voir comment leur projet peut être soutenu et comment ça peut devenir quelque chose d'un petit peu institutionnel et puis qui soit, je sais pas, distribution mensuelle, distribution hebdomadaire, on n'en sait rien, pour que voilà, ce projet puisse naître et puisse se développer à l'université. Et pour finir, on a une exposition qui s'appelle « Décoloniser les corps » jusqu'au 6 mars à la Galerie Éternelle Cartier-Paulbert. Et c'est une exposition qui met en avant comment des artistes activistes déconstruisent les normes du genre, du sexe et de racisation. Donc voilà, ça se passe Cartier-Paulbert, c'est jusqu'au 6 mars. Je pense que le vernissage est passé. Il me semble que le vernissage est passé. Mais voilà, on a jusqu'au 6 mars pour en profiter. Et voilà pour l'actu sur Tours. Après le réseau, on le retrouve le 8 mars. Dans la rue, pour une action en lien avec la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, avec donc le réseau et donc tout plein d'autres activistes de Tours, donc d'autres associations, et donc voilà, une action commune, une action groupée pour marquer le coup, pour marquer cette journée symbolique. Voilà, également, il y aura la réunion mensuelle, mais qui sera déjà passée lorsque vous écouterez cette émission, car on est préenregistré. Et mais voilà, pour la prochaine, si vous manquez celle de février, pour la prochaine, abonnez-vous donc à la page Facebook, réseau des jeunes ambassadrices de l'égalité femmes-hommes. On communique à chaque fois qu'on fait une réunion mensuelle. Les réunions mensuelles se passent au Bige, puisqu'ils nous accueillent gracieusement. Et voilà, on a la page Facebook, on a également le blog, dont je rappelle l'adresse, www.lereseaudesimone.fr, tout en attaché, en minuscules, sans accent. Et voilà, et puis Ménage-toi Simone, le troisième épisode, en mars, on sera ravis de vous retrouver, que vous nous écoutiez, et puis aussi et puis aussi de recevoir vos retours donc sur nos réseaux, n'hésitez pas. Merci à toutes autour de la table, merci à Zoé, merci à Ophélie, bien. Merci à Anaïs, merci Mélanie, merci Romane.
Merci Merlin.
Je vous en prie. Et puis, on se quitte avec le générique et on se dit à très bientôt.
Ah, les bonnes femmes. Je préfère voir tes fesses que ta gueule. Elles sont plus agréables à regarder.
Justement, est-ce que je pourrais avoir une autre de vos petites putes asiatiques ? La mienne est morte.